même depuis plusieurs semaines, on voit que Dieu a un rêve. Et quel est ce rêve-là? C'est toi, oui. Hein, une qui écoute. Dieu a rêvé, il a rêvé de nous. Hein? Il a rêvé, son plan, c'est son rêve, c'est une église. Hein? Même Jésus, c'est son épouse. On est l'épouse de Jésus-Christ. C'est quelque chose, quand même. Et on a vu ce moment-là, c'est quoi notre rêve à nous? Quel est notre rêve à nous? Dieu a un rêve. Même dans l'Ancien Testament, il rêvait d'une cité qui a de solides fondements. Dieu est l'architecte et le constructeur. Jésus dit, je vais bâtir mon église. Et notre rêve, hein, c'est participer à cette œuvre-là extraordinaire. Est-ce que quelqu'un a déjà participé, je ne sais pas, à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grandiose? L'Expo 67, ceux qui sont assez vieux ou... Hein? Oui, Jean-Paul? Oui? Alors, c'est rien. C'est rien à côté de participer au rêve de Dieu, au plan de Dieu, de participer à bâtir cette église-là avec lui. Et on a vu que le salut, c'est quelque chose de personnel, mais ça n'arrête pas là. C'est aussi quelque chose de collectif. Quand un bébé vient au monde, Dieu a institué une famille pour en prendre soin. Quand un nouveau-né spirituel vient au monde, Dieu a institué une famille, hein, qui s'appelle l'Église, pour en prendre soin, parce que une personne seule, c'est une personne qui ne survivra pas, si on peut dire. On a besoin les uns des autres, on a besoin d'être ensemble. Toutes les métaphores de l'Église, ou une grande partie des métaphores de l'Église, si on parle d'un édifice, on parle qu'on est des pierres vivantes. Une pierre seule, ça ne forme pas un édifice. Les pierres vivantes sont collées ensemble, ça forme un édifice. Un troupeau, hein? Une brebis qui n'est pas dans le troupeau, c'est une brebis. Elle est égarée, elle est loin du Seigneur. Il y avait aussi le corps. L'Église est un corps avec des membres. Un bras coupé, qu'est-ce que... Hein? À quoi ça sert? Inutile. Alors, l'Église, c'est quelque chose d'incroyable. Le premier réflexe des croyants, on a vu ça. L'Église naissante, là, vient de naître. Hein? Et elle n'est même pas peut-être encore née, c'est avant la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il avait besoin? Être ensemble. Et qui est-ce qui ajoutait chaque jour à l'Église? Dieu, le Seigneur, ajoutait chaque jour à l'Église. Alors, on voit encore que c'est le plan de Dieu. L'apôtre Paul, il passait partout. Il amenait le message partout. Qu'est-ce qu'il laissait derrière lui? Une église. Hein? Partout où il passait. En tout cas, il essayait de laisser une église. La vision du district. Le rêve du district. Des communautés de foi, des églises transformées par Jésus-Christ, transformant par la puissance du Saint-Esprit, leur paroisse, le Québec, le Canada et le monde à la gloire du Dieu trinitaire. Et on a, dans notre plan stratégique, on a regardé une vision, on propose une vision. Qu'est-ce qu'on rêve de voir s'accomplir ici? Que le nom de Jésus soit glorifié dans le quartier, partout ailleurs. Amen. Amen. Que des vies soient transformées par l'Évangile de Jésus-Christ, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir la puissance de Dieu se manifester par le Saint-Esprit dans les personnes, puis ces personnes transformer leur milieu et la communauté autour. Que Jésus devienne une alternative concrète et vivante face à la misère engendrée par la violence, l'immoralité, le mal sous toutes ses formes. On est en train de nager. On nage là-dedans. Que l'Église soit un instrument de justice, de compassion, digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, c'est un rêve qu'on veut avoir ensemble, qu'on propose ensemble. Et je ramène mon verset, « Heureux ceux qui trouvent chez toi, parce qu'ils vont... » Hein? L'Église, notre Église, devient une oasis. Les gens viennent parce qu'ils ont besoin Ils ont soif, ils ont besoin de se ressourcer. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ce matin? Hein? On met un stop au monde dans lequel on nage toute la semaine pour pouvoir respirer, pour pouvoir se ressourcer, pouvoir s'encourager les uns les autres pour ce court instant, je pourrais dire, d'avoir fait partie de cette famille-là, de ce mouvement-là, de cet organisme-là que nous sommes. Alors, la réalité, c'est que nous sommes unis ensemble. Nous sommes le corps de Christ, hein? Et on avait cette belle photo de Benjamin avec son frère. Un corps, une tête qui a pas de corps, qui est séparée de son corps. On appelle ça un cadavre, hein? Alors, la réalité, la vérité, c'est que nous sommes unis à Jésus-Christ, c'est fait, c'est accompli. Notre Jésus est la tête, le chef, et notre sort est uni à Jésus-Christ. Jésus est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il règne. Et nous sommes ressuscités, assis à la droite de Dieu, et nous régnons. Éphésiens, hein? Il nous a ramenés à la vie, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Actuellement, on lève le star, ce qu'on voit, on voit Jésus assis sur le trône, et on est avec lui sur ce trône-là pour accomplir sa mission, parce que le corps et la tête sont unis ensemble. On a une même destinée et on a une même mission. On continue la mission que Jésus est venu inaugurer sur terre, et il nous a donné la puissance, il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir pour accomplir cette mission-là. Et si on est là aujourd'hui, si nous on est là aujourd'hui, c'est parce que depuis 2000 ans, l'Église a fait la job. Et Jésus est venu bâtir, rassembler ces croyants-là. Alors, on n'existe pas par nos propres forces. On pourrait avoir un cadavre ici, puis l'asseoir. Et puis, c'est une organisation, on pourrait dire. Mais pour être un corps bien ordonné et cohérent, comme il est écrit, hein, duquel qui va un corps qui va croître, un corps qui va s'édifier, se construire lui-même, c'est autre chose, hein? Un corps bien ordonné et cohérent. Et là, on va faire un petit exercice. On l'a déjà fait. Je pense que dans mes notes, c'était 2009. Alors, ça fait quand même 3 ans, peut-être que c'est pas là. Et j'aimerais vous proposer un petit test que chacun va faire pour soi. 4 grands types de personnalité. Vous souvenez-vous de ça? Alors, chacun, vous pouvez les distribuer. Pendant que on va faire des petits groupes, on peut faire 4-5 petits groupes ensemble. C'est pas grave si vous vous connaissez pas, parce que des fois, on peut avoir une impression, on peut laisser une impression, et vous allez décider, bon, moi je suis un thinker ou en premier, parce qu'on les a les 4, hein. C'est pas qu'on est juste un type de personnalité, mais il y en a un probablement qui est prédominant. Il y en a qui c'est plus fort chez certaines personnes. Mais j'aimerais ça savoir ensuite, on va faire comme un petit sondage, savoir combien qu'il y a de thinker, combien qu'il y a de feeler, combien qu'il y a de doer, puis combien qu'il y a de dreamer. Ça va? Alors, pendant que vous faites des petits groupes, on va juste retourner les chaises, mettez-vous ensemble, et puis chacun pour soi, on peut le remplir, puis ensuite, on pourra demander aux autres ce qu'ils pensent que vous êtes, puis ensuite, vous direz ce que vous êtes. Vous me suivez? Vous faites le petit test rapidement. Mettez 1, 2, 3, 4. Puis ensuite, les autres vont essayer de deviner ce que vous êtes. Alors, le résultat au final, ceux qui remportent, ce sont les thinkers. 18 thinkers, le double des autres. Il y a 9 feelers, 10 doers et 8 dreamers. OK? Ça, c'est le portrait de nous ici, de l'Église ici, aujourd'hui. Oui. Non, il y a beaucoup de... Hein? Comme moi, je suis, bon, le dreamer, thinker, mais ça donne quand même une vue d'ensemble de ce qu'on est aujourd'hui. Puis on pourrait, c'est discutable aussi les catégories, là, mais en général, ça donne un portrait. Le but de ça, c'était vraiment de voir un aspect sur lequel on est différent. Ça, c'est juste un aspect. Notre type de personnalité, on pense pas pareil, on fait pas les choses pareilles. Autant il y a de personnes ici, autant il y a de façons de penser. Si on ajoute à ça, imaginez l'âge, les fossés entre les générations, ça serait un autre facteur qui semble nous diviser. Différence de culture, hein? Différence de valeur dans la société, différence de langue, l'éducation, l'arrière-plan, le milieu social dans lequel on vient, l'arrière-plan religieux aussi. Qu'est-ce qu'on a eu comme église dans le passé? Alors, vous imaginez le portrait différent, combien on est différents les uns des autres et comment on fait pour fonctionner ensemble. Il dit que le corps tout entier est bien ordonné et cohérent, bien coordonné et cohérent. Alors, ordonné, c'est un peu le mot, il veut dire harmonieux, qui est en harmonie, qui fonctionne bien ensemble. Et puis, l'autre mot, cohérent, c'est comme un tissage. On est tissé ensemble. Chaque personne est un fil différent, de couleurs différentes, on peut dire, mais on est tissé ensemble. Ça, c'est le portrait de l'image du corps de Jésus-Christ. On est tous différents et on est tissé, coordonné ensemble. Et si je prends la main, par exemple, ma main, remarquez-vous quelque chose de spécial? Un petit doigt est un petit peu à part, mais regarde celle-là. Les quatre, ils visent en haut, puis lui, il vise dans l'autre direction. Hein? On pourrait dire qu'il n'est pas conformiste. Puis il peut aller dans la bonne direction, mais ça y prend. Il faut qu'il se force, hein, pour aller dans la direction des autres. Alors, et c'est la même chose si je fais ça. Alors, ou ça, les autres s'en vont vers le bas, puis lui, il s'en va vers le haut, il s'en va. Alors, hein, il est vraiment l'esprit de contradiction, il est rebelle. Si tu le regardes de même, il est fait de même. Seigneur, tu t'es trompé. Hein? T'as de la misère à aller dans la direction des quatre autres. Mais imaginez une main, pas de pouce. Essayez d'écrire. D'écrire, pas de pouce. Hein? Un ordi, ouais. Mais tenir un marteau. Essayez de tenir un marteau puis planter un clou sans votre pouce. Manger une pomme. Très, très, très difficile. Alors, même s'il est différent, même s'il y a de la misère à se conformer ou à suivre, il est extrêmement important dans le corps. Hein? Il faut qu'il occupe cette position-là pour donner de la force à toute la main. Et si une main n'a pas de pouce, c'est une main handicapée, c'est une main qui est faible, qui produit rien, et vice-versa, le pouce tout seul, qu'est-ce que je peux faire avec mon pouce? Prendre l'ascenseur? Je sais pas si on voit, hein? Faire du pouce, oui. Alors, on voit, l'image est très forte, hein? Combien on a besoin d'être unis ensemble, de travailler ensemble. Chacun a sa fonction, chacun, même si on est différent, même si on est une façon de voir différente, il faut réussir en quelque part à travailler ensemble, sinon on est handicapé, sinon on est stérile, on ne produira rien de vraiment efficace. Alors, on est extrêmement dépendant les uns des autres, et quand il dit que le corps est bien coordonné et cohérent, j'ai une bonne nouvelle. parce que c'est déjà fait. C'est déjà accompli. L'unité dans le corps de Christ, c'est déjà fait. C'est déjà accompli. Si on retourne à Éphésiens, il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Es-tu plus, un petit plus uni que ça? Hein? Alors, bonne nouvelle, c'est que c'est pas le fruit de nos efforts, l'unité. Hein? On ne peut pas produire cette unité-là. Il y a rien dans le monde qui est comparé à l'Église de Jésus-Christ comme unité. Il y a rien qui se compare à ça. Il y a pas un organisme ou une organisation humaine qui est, fonctionne de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Verset 1. Verset en haut, verset 3 plutôt. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit qui est déjà là. Hein? En anglais, ils disent « eager to keep ». Je trouve que ça rend encore mieux l'idée de l'original. On pourrait traduire « ayez un ardent désir, soyez avide, assoiffé, empressé, passionné de garder cette unité-là ». Et Paul, quand il écrit aux Éphésiens, si vous prenez tous les impératifs, toutes les exhortations, marchez d'une manière digne du Seigneur. Alors, c'est ce que nous avons à faire, c'est de prendre ce qui est déjà accompli, l'unité du corps de Christ reliée à la tête, et de l'appliquer à notre vie présente, maintenant, ici, en tant qu'Église. C'est déjà là. Pas quelque chose qu'on invente, pas quelque chose qu'on a créé. C'est quelque chose qui vient du ciel, c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Il veut que chacun des membres, que ce soit le pouce ou un des doigts ou un œil, fonctionne, soit bien coordonné, fonctionne ensemble pour arriver à s'édifier les uns, à s'accroître et à s'édifier les uns les autres. Jésus a besoin. Nous avons besoin les uns des autres. Il n'y a personne qui peut faire la volonté de Dieu tout seul. D'accord? Et qu'on soit le petit doigt, qu'on soit le pouce, chacun a sa place, son rôle à jouer dans cette mission-là que le Seigneur nous confie. Est-ce qu'il y a des porc-épics en Afrique? Oui? Ailleurs dans le monde? Hein? C'est une famille de porc-épics. Vous êtes-vous déjà demandé comment des porc-épics ont des relations? Pas vraiment. T'as pas compris? En tout cas, d'avoir des relations intimes. Hein? Comment ils font pour... Comme les bisons, par exemple. Hein? Ils sont très affectueux et chaleureux. Huggers. Hein? Comment qu'on peut faire pour avoir ces... Avoir une idée? Non, entrer en relation, d'avoir une relation. Si on est plein de piquants, là, et on est plein de piquants, n'est-ce pas? On est d'accord? On n'est pas juste différents, on a des défauts, on a des choses peut-être qui ne plaisent pas aux autres, des façons de penser ou de faire. Pas de piquants sur le ventre, ah, peut-être. Je suis pas allé jusque-là dans ma... Dans ma recherche, là. Le flatter dans le sens des aiguilles, c'est bon. Wow! On voit la sagesse. Pardon? Oui, hein? Alors, dégueulasse, hein? Est-ce que ça, c'est le portrait d'une église? On vient ensemble, puis on sort plein, on s'est fait piquer. Est-ce que c'est ça, une église? Je peux savoir un nom? Hein? Ça ressemble pas à ça. J'ai un autre... Hein? Contrôler nos piquants. Hein? Contrôler les piquants, nos piquants, puis ceux des autres aussi. Alors, il y a une façon que Paul nous dit de venir ensemble, que ce soit édifiant, que ce soit... Hein? Je vous exhorte, je vous encourage à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en tout. Qu'est-ce que ça prend pour venir ensemble? Humilité, douceur, et patience. C'est quoi la première caractéristique de l'amour? L'amour est patient. Pourquoi est-ce qu'il dit que l'amour est patient? Première caractéristique. Hein? On est loin de l'amour romantique, là. Parce que ça prend de la patience. Pourquoi ça prend de la patience? Parce qu'on est différent. Hein? Parce qu'on est différent, premièrement. Un aspect. Et de la minute que je me mets des lunettes, puis je regarde et je me mets à juger les idées des autres, le comportement des autres, et juger, je parle d'une mauvaise façon. Hein? C'est impossible. Impossible de venir dans une église puis commencer à regarder les défauts. Je peux te garantir, tu resteras pas longtemps. Hein? Si on veut trouver des défauts chez les autres, dans l'Église, le pasteur, le premier, même en avant, peut-être vous voyez quelque chose qui est tout croche, puis c'est inévitable, on est fait de même. Hein? Alors, il faut, non, vous dites non, je mets ça de côté. Hein? Dieu est son juge. Bien sûr, s'il y a quelque chose de grave, on doit intervenir avec amour, mais sans jugement. N'est-ce pas? Avec humilité. Humilité, ça veut dire regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. Les intérêts des autres. Quels sont les intérêts des autres? Comment est-ce qu'ils fonctionnent, les autres? Ah! C'est épouvantable! Hein? Non. Non. Ça peut être épouvantable. Mais, si je regarde ça avec un esprit de jugement, je sors mes pipiques. Et au lieu d'attirer les gens vont fuir. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de prendre un porc-épic dans ses mains? Non. Alors, ne soyons pas des porc-épics. Contrôlons nos porc-épics, nos épines. Et soyons pleins d'humilité, de douceur et de patience. Chaque personne ici... Ce qu'elle pense a de la valeur. Ce qu'elle dit a de la valeur. Ce qu'elle ressent a de la valeur. Ce qu'elle veut a de la valeur. Et c'est dans la mesure où on va être capable d'amener ça au Seigneur qu'on va être capable de fonctionner ensemble. Seigneur, je suis à ton écoute et je veux savoir ce que tu as à me dire à moi. Je suis responsable de ce que je pense, de ce que je désire devant le Seigneur. Et si tout le monde est un fil invisible, là, on est tous reliés à la tête, et si tout le monde fait ça, en quelque part, on va avoir chaque morceau du puzzle qu'on va pouvoir mettre ensemble, puis on va avoir le portrait de ce que Dieu veut. On a déjà fait ça. Je pense qu'on est en marche, je ne parle pas de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on essaie de faire le plus possible, de mettre toutes nos pensées ensemble et marcher le même pas. Alors, le pouce, tout seul, inutile. Inutile. Il va sécher. Le pouce qui réussit à se joindre aux quatre autres doigts, il y a une force qui est décuplée, qui est beaucoup plus forte que chacun des doigts. Hein, ils ont chacun leur fonction, l'auriculaire. Mais auriculaire, c'est ça que ça veut dire. L'annulaire, mettre le doigt. Hein? Celle-là, je ne sais pas trop. C'est pas... le majeur. L'index, on passe à l'index. Hein, c'est vraiment ça. Alors, dans la mesure où on se joint ensemble pour accomplir quelque chose, il y a une dynamique qui se produit. Il y a vraiment une puissance qui est déployée, qui est au-delà de ce qu'une seule personne va faire isolément. Et on a besoin les uns des autres. Je fais un appel ce matin, là. Hein? Vous faites partie du corps de Christ. Elle est où, votre place? Hein? Quel apport est-ce que vous pouvez apporter dans cette mission-là qu'on a ensemble d'apporter l'Évangile? Et c'est pas un fardeau, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans ton cœur. Juste gratter la chair, là, puis dans le fond du cœur, tu vas trouver l'appel que le Seigneur a pour toi en particulier. Et cet appel-là, il va venir se joindre aux autres appels de chaque personne, je suis convaincu. Alors, vous êtes d'accord? On vient ensemble? Il y a contrôler nos piquants, ça veut dire on se calme. On n'est pas piquant. On n'est pas agressif. Une bonne attitude. Et il y a un autre verset qui est ensuite qui dit supportez-vous les uns les autres avec amour. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il écrit à l'Église, là, puis il dit « Supportez-vous ». Ça peut avoir deux sens, n'est-ce pas? Et je pense que ça a les deux sens aussi. Hein? Supporter dans le sens d'aider. S'aider. Supportez-vous les uns les autres avec amour parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. On peut les regarder comme « Ah, oh, non! » Hein? Un fardeau. Non, Seigneur, il dit, tu viens à côté. Puis, parce qu'on va tous passer par là. Hein? Je pense à notre frère Régent, là, Arménia. Hein? C'est-tu tough ce qui est en train de passer là? Supportez-vous les uns les autres. On a besoin de support. On va tous passer par là, un jour ou l'autre. On a tous besoin d'un ami, quelqu'un qui vient à côté. Une petite tape dans le dos pour nous encourager. Et il y a le sens négatif aussi. Endurez-vous avec patience. Hein? Si on veut savoir si on aime quelqu'un, la première caractéristique, c'est la patience. Si tu veux savoir si tu aimes quelqu'un, si tu aimes tes enfants, si tu aimes ta femme, ton mari, tu aimes l'Église, c'est la patience. Hein? La patience, ça veut dire j'ai l'espérance. J'ai une espérance que Dieu va travailler dans son cœur. Et ce qu'il y a d'insupportable, l'épine qui est insupportable, hein? Je vais la supporter en attendant que le Seigneur fasse son œuvre. Et si je peux aider à cette personne-là, si je peux venir à côté de la personne et l'aider à serrer son piquant, gloire à Dieu. Ça, c'est des façons d'avoir un corps qui est coordonné, qui forme un solide assemblage. Et si chacun, on est armé de ces principes-là, on va pouvoir construire quelque chose de vital. Supportez-vous, ça veut dire pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Qu'il y ait un climat de pardon. C'est pas à chaque affaire que je fais de pas correct, je demande pardon, ça peut devenir tannant. Hein? Non. C'est... Tu sais que je t'ai pardonné. Tu sais que je te pardonne. Quand il arrive des grosses épines, là, puis OK, on s'assoit, puis on guérit la blessure par le pardon. Mais il parle d'un climat dans lequel l'Église de Jésus-Christ va se construire, va agir. Et ce climat-là, c'est supportez-vous, pardonnez-vous réciproquement. Un climat, on est capable de regarder les autres avec leurs défauts et vraiment de venir à côté si on peut pour les aider. Avec leurs besoins, on vient à côté pour les aider. Et c'est comme ça qu'on va grandir, on va s'édifier les uns les autres. En terminant, ça va être en 10 ans, la vérité, les thinkers, avec amour, les feelers. Alors, qui est-ce qui veut avoir affaire avec un thinker? Tu sais? Juste thinker, là. Il serait juste 100% thinker. Ou 100% feeler. Ou 100%, non. Hein? Il y a un équilibre là-dedans. Et si on veut être capable de travailler ensemble, il faut voir ça comme une richesse. Hein? Chaque personne est une richesse. Je peux apprendre de Lise parce qu'elle est différente de moi, de Benjamin parce qu'il est différent de moi. Il voit les choses d'une façon différente. On peut apprendre comme ça les uns des autres. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on grandisse, qu'on s'accroisse et qu'on s'édifie les uns les autres pour remplir la mission qu'il a pour nous d'être une oasis. Les gens qui vont venir ici, ils vont dire, c'est qui cette gang-là? Hein? Qui se tape pas dessus, qui se pécosse pas et qui aime les gens qui sont dans notre communauté. J'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes juste pour connecter avec la tête, je veux dire, avec le Seigneur, avec le chef, et lui exprimer notre fierté de faire partie de ce corps et de l'unité, apprécier l'unité qu'on a les uns avec les autres. Alors chacun peut-être une courte prière, juste une phrase pour dire merci Seigneur pour ce que tu as fait.